À 11h24, avant la pause, il y a Caroline là, qui avait un cas particulier d'une entente préalable avant l'inspection.
Après.
Le problème, c'est qu'elle a fait ça avant l'inspection. Elle a dit on va vous payer le 3 500 $, mais là, ils ont fait faire l'inspection après.
Non, c'est pas ça.
Non?
Non, en fait, une inspection, c'est général. Donc, probablement qu'il y a une inspection à bâtiment qui a eu lieu des acheteurs, puis l'inspecteur a dû dire « Hey, t'as des fissures à réparer. »
Oui.
Puis après ça, ben l'entente qu'ils ont eue entre les deux, c'est il faut faire réparer les fissures.
Donc, c'est là qu'ils sont allés trop vite, ben, avant de faire inspecter les fissures par un expert des fissures.
C'est ce que je trouve.
Voilà.
C'est que la clause dans la promesse d'achat ou l'entente qu'ils ont eue, ils auraient, en tout cas, moi, de mon côté, je préfère faire évaluer avant de faire une entente comme ça. Donc, on peut dire, dans une entente pareille, faire évaluer les fissures et s'il y a réparation à faire, c'est le vendeur qui doit les faire. Donc, il y a une nuance importante parce que dans le cas de Caroline, si son rapport vient dire qu'il n'y a pas de problème, ben il faut qu'elle le fournisse aux acheteurs, puis là, il n'y a pas de problème. Alors, elle peut se défendre de cette façon-là. S'il y a un problème, il y a un problème, effectivement, faut le régler. Mais s'il n'y a pas de problème...
Donc, si on résume, première étape, il y a l'inspection générale.
Oui.
OK, on constate des fissures.
Oui.
Et là, on prend pas tout de suite une entente, on va les réparer. On va faire venir d'abord l'expert et à l'issue des conclusions, là, on verra si oui ou non. C'est comme ça qu'il faut procéder.
Moi, c'est comme ça que je le vois. Ou sinon, si vous faites une entente avant, je spécifierais dans la clause qu'il faut faire vérifier les fissures.
Parfait.
Et s'il y a réparation à faire, c'est le vendeur qui les assume. Mais le « s'il y a », là, il y a vraiment une nuance très importante. Le choix des mots est primordial dans une entente comme ça.
Il y a Sylvie de Gatineau qui s'inquiète là de la surenchère. Là. Ces gens-là qui vont vendre tantôt, là, dans 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans.
Je leur souhaite pas dans 2 ans, là, quand même.
Ben, elle dit, ils ont tellement acheté beaucoup plus que l'évaluation. Alors, je vois de gros problèmes dans l'avenir. Salut, Sylvie.
Oui, bonjour. Oui, effectivement. Moi, je trouve que c'est comme jouer au poker. Mettons que j'ai une maison qui vaut une évaluation 160 dans les... Avant que la pandémie arrive, j'aurais pu vendre peut-être 180, 190. Mais là, dans l'état actuel des choses, la surenchère, moi, je prévois que je pourrais la vendre, genre, mettons le double. Mettons, on va dire le double, 300 000. La personne achète ma maison, puis dans 6 mois, 1 an, la pandémie se poursuit, ça va pas bien, elle perd sa job, elle fait quoi? Puis même si le marché se replace, éventuellement, le marché va se replacer, il n'y a pas personne qui va vouloir racheter une maison de ce prix-là qui ne vaut pas ça. Fait que le monde, ils vont rester pris avec leur maison. Moi, j'ai conseillé à mon fils qui veut avoir une maison éventuellement. J'ai dit, attends 2, 3 ans, 4 ans. Puis dans 2, 3 ans, 4 ans, il y a plein de monde qui vont perdre leur maison. Puis là, la banque va être obligée de vendre au juste prix ou même des fois peut-être plus bas que le juste prix. Puis là, tu vas avoir une deal. Attends, mon homme.
Ben, écoutez, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, Sylvie, parce que tout d'abord, l'évaluation, il y a l'évaluation municipale qui n'est pas du tout le reflet de la valeur marchande des propriétés, et ça a toujours été. Là, tout dépendant des secteurs, les évaluations municipales ne suivent pas nécessairement la réalité du marché. Il y a aussi les évaluations de la banque. Ça, c'est une grosse nuance. Donc, il y a souvent les institutions financières vont envoyer un évaluateur pour s'assurer que le prix de la propriété correspond au marché. Et ça peut arriver qu'un évaluateur sous-évalue, tu sais, quelqu'un qui paye 100 000 de plus sa propriété, ça se peut que l'évaluateur, lui, sort un prix à 80 000 de plus et que là, les acheteurs doivent combler le 20 000 de leur poche en sortant plus de liquidités. Et c'est comme ça que certaines personnes pourraient se faire refuser du financement là en ce moment. Moi, j'en ai pas vu beaucoup parce que les évaluateurs s'adaptent. Ils voient très bien qu'avec l'offre et la demande, les prix montent. Alors, les évaluations montent aussi. Donc, là, je parle des évaluations de la banque parce que les municipalités n'ont pas refait les évaluations à cause de la pandémie. Là. On n'en est pas là. L'évaluation municipale n'a pas bougé pour ça. Donc ça, c'est un premier point. Les évaluations de la banque, les évaluateurs, par ailleurs, sont très, très occupés en ce moment. Les banques demandent presque toujours une évaluation, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant, mais ils sont débordés et ça prend bonne chance pour avoir un rendez-vous. Là, c'est beaucoup plus long qu'avant. Le deuxième volet de ce qu'elle dit, Sylvie, les pertes d'emploi, C'est sûr que ça, bon, on n'a pas de boule de cristal. Hein? Est-ce que les gens vont perdre leur emploi plus au cours des prochaines années? Ils ne pourront pas assumer leur maison. En ce moment, Jeffrey, il y a quand même des... les approbations sont faites en fonction d'un taux bien plus élevé que le taux hypothécaire qui est offert sur le marché. Donc, on s'assure que les gens aient quand même une marge de manœuvre jusqu'à autour de 5 %. C'est sûr que si les gens perdent leur emploi massivement, là, on pourra voir un mouvement, mais parfois, les gens perdent leur emploi, se réorientent dans un autre domaine, et c'est assez long. Avant de perdre ta maison, Jeffrey, là, il y a beaucoup d'étapes. Là. Les maisons reprennent pas... les banques reprennent pas votre maison après un mois de non-paiement.
J'ajouterais, là, pour le prix des maisons, j'ajouterais aussi que la moyenne canadienne, le Québec a du retard par rapport à la moyenne canadienne, qui est haussée par quoi? Par les marchés de Vancouver et Toronto.
Exact.
Montréal est en retard par rapport à ça, donc on est en train de rattraper tranquillement, pas vite. Ce qui me fait dire, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas un spécialiste là-dedans, que les prix vont sûrement pas descendre.
Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas à ça. Alors, moi non plus, j'ai pas de boule de cristal. J'ai beau être en immobilier 7 jours sur 7, presque 24 heures par jour, mais je peux pas dire qu'est-ce qui va arriver dans 3-4 ans. C'est possible qu'il y ait des gens qui aient des difficultés, mais quand même, les gens qui ont une certaine stabilité d'emploi. Puis je peux te dire, Jeffrey, en ce moment, quelqu'un là qui a un emploi un petit peu plus précaire ou qui est au chômage à cause de la COVID ne pourra pas emprunter pour une maison. Donc, si ça peut rassurer les gens qui nous écoutent, ceux qui achètent en ce moment ont une certaine stabilité d'emploi et ça, c'est important de le dire. Donc, ils vont peut-être perdre leur emploi dans 3-4 ans, peut-être, mais personnellement, des gens qui achètent, qui sont enseignants ou qui travaillent dans le domaine de la santé ou qui ont d'autres emplois dans des entreprises quand même qui fonctionnent très bien en télétravail, je ne vois pas pourquoi ces gens-là perdraient tous leur emploi en même temps dans 3-4 ans. Là.
Avez-vous peur d'aller trop vite en affaires? C'est notre question aujourd'hui. Francis, on vous écoute.
Oui, bonjour. Félicitations pour votre émission, premièrement. J'avais pour avoir votre opinion avisée sur un cas de figure qui est en deux temps. Que faire dans une situation où est-ce que un courtier nous confirme que tous les acheteurs qu'il amène sont prêts à trouver et qu'on se retrouve dans un cas de figure où est-ce qu'on a une offre d'achat qui est conditionnelle au financement et que le financement n'est pas autorisé. Donc ça, c'est la première, le premier volet. Puis le deuxième volet, c'est que dans un cas où est-ce que le financement n'est pas autorisé, est-ce que c'est possible de demander au courtier ou à l'acheteur de fournir une lettre de la banque qui demande jusqu'à quel niveau elle peut financer de manière à peut-être prendre une décision à aller sur une hypothèque de deuxième rang ou sur une balance de vente?
Bon, c'est intéressant votre question, Francis, et ça va rejoindre bien des gens sûrement. Donc, quand nous, on reçoit, exemple, je demande aux acheteurs, là, ils sont préapprouvés. Bon, il faut vérifier sur la préapprobation qu'elle soit récente. Donc, si c'est une préapprobation, comme je viens tout juste d'en parler, tu sais, si ça fait 3 mois puis que les gens sont au chômage maintenant ou qu'ils ont vu leurs heures diminuer, dans une préapprobation, là, il y a toujours une mention. Il faut pas que la situation des gens ait changé d'ici la signature de l'acte de vente. Donc, c'est clair que s'ils perdent leur emploi, on arrive chez... Tu sais, ça se peut que la banque veuille pas débourser au final. Là. Ça, c'est possible. Bon, là, vous êtes pas rendu là. Mais c'est bien possible que des acheteurs soient préapprouvés à l'origine, qu'on ait le document et que le financement soit refusé pour X raisons. Est-ce qu'il y a eu surenchère? Est-ce qu'il y a une trop grande différence entre le prix payé et la valeur de la maison qui fait en sorte que les gens sont pas capables de donner assez de liquidité pour combler cette différence-là? Ça se peut. Ça peut être un problème et un financement peut être refusé pour ça. Il y a toutes sortes de raisons pour refuser un financement, mais c'est clair que si vous avez un couple, exemple, puis un des deux a vu sa situation d'emploi modifiée depuis que le papier a été émis, la préapprobation bancaire, ben c'est possible que ça fonctionne pas. Et une préapprobation n'est jamais une garantie. Il faut que ce soit approuvé officiellement sur l'adresse de la propriété. Alors ça, c'est important. Est-ce que la propriété a des problèmes qui font en sorte que la banque ne veut pas financer? On a déjà vu ça dans le passé. C'est peut-être pas votre cas, Francis, mais ça fait partie des possibilités. Donc, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu. Maintenant, si quelqu'un n'a pas obtenu son financement, il y a une clause dans une promesse d'achat qui fait en sorte que vous avez le droit de lui demander de faire appel à une autre institution financière. Donc, il faut qu'il vous produise un refus. Je ne crois pas qu'ils peuvent aller dans le détail du refus en question. Il y a des choses qui restent des détails confidentiels, un dossier personnel. Mais vous, en tant que vendeur, vous pouvez donner un délai additionnel aux acheteurs, par exemple, pour les référer à une autre institution, peut-être que votre courtier connaît ou, bon, vous pourriez avoir des références. Vous pouvez demander à cet acheteur-là de faire une autre demande à un autre endroit pour vous assurer que c'est vraiment pas possible qu'il obtienne son financement, mais c'est important d'avoir les raisons. Est-ce que son emploi a changé? Est-ce que c'est toute la nuance est là et c'est là la clé, finalement, de l'issue d'une situation comme ça?
Merci, Francis. 11h34, avez-vous peur d'aller trop vite en affaires dans le marché actuel? On revient dans un instant.